Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Marie et les œufs en neige, épisode 3. L'œuf ou la poule ?
Traverser toute la Fraîche. C'est plus loin que le moulin des 4 saisons.
Le moulin des 4 saisons.
C'est vraiment un temps de cochon.
C'est mes deux parents qu'on entend là. Ils m'emmènent au Secos d'Angers pour mon premier rendez-vous.
En fait, t'as prévu de le revoir, le mec là dont tu parlais ?
Oui, normalement je le revois.
Il te plaît bien ?
On va pas tout dire.
J'ai raconté ma rencontre dans le métro avec Marcel. Samba. Enfin, le mec qui est descendu à la station Marcel Samba.
Bah ouais, oui, il me plaît bien.
Est-ce qu'il le sait au moins qu'il te plaît bien, tu...
Bah oui, je pense.
Je pense, mais c'est un peu fouillon, les garçons. Hein. Ça me fait peur de se tromper, donc...
Je pense qu'il peut pas trop se tromper, là.
Bah oui.
Parce que si on se revoit la semaine prochaine, c'est que je lui ai écrit dès le lendemain de la rencontre. Et pas un, mais 5 messages. Un message en 3 fois, parce qu'écrit en impulsivité de folle, puis un autre pour corriger une faute, puis un pour faire une blague dessus. On est sur un ratio de 1 à 11 en quantité de messages envoyés.
Ouais. Moi, je vais me mettre
à notre parking. Notre parking est plus loin. Ouais.
Mes parents sont les plus mignons. Je les aime de m'avoir accompagnée, mais la prochaine fois, je viendrai toute seule. En conduisant ma voiture, genre comme je conduis ma vie, en femme indépendante. Parce que là, derrière eux, sur ma banquette arrière, j'avais un ressenti 14 ans.
Bonjour. J'ai rendez-vous, mais je suis un peu en avance.
Il est à quelle heure ?
9h.
Ils ont fini par m'attendre à la cafette de l'hôpital. Je les imagine avec leur petit gobelet de la machine à café. Sans doute pas une scène qu'ils avaient rêvée plus jeune. Le jour où on accompagnera notre fille se faire congeler ses œufs.
Elle est à quel étage ?
Au 5e. Merci.
Dans la salle d'attente, je me sentais en décalage. Les autres, elles avaient l'air de vraies dames. Certaines avec leur mec, d'autres avec leur revue de déco. Je les enviais derrière mon masque obligatoire, toutes. Avec leurs petits dossiers et leurs grandes espérances. J'ai donné mon petit dossier à moi quand ça a été mon tour.
Bonjour.
Et il était bien complet.
Vous êtes madame Cahu.
Mais ma panique aussi.
Alors, comment ça va se passer ? Donc, on va d'abord stimuler vos ovaires. Et ça sera donc des piqûres pendant 10 à 15 jours environ, avec des contrôles réguliers à l'hôpital avant le jour de la ponction. Okay. La ponction, ça se passe au bloc opératoire, hein, dans l'hôpital, qui est rattaché au laboratoire de biologie de la reproduction. D'accord ?
D'accord. J'ai tenté au max de me concentrer pour, 1, ne pas me mettre à pleurer, 2, retenir au moins la moitié de ce qu'elle disait.
Et donc la ponction, en quoi ça consiste ? Bah, en fait, on introduit une sonde d'échographie par voie endovaginale, et au bout de la sonde, il y a une aiguille, et on va venir ponctionner les follicules et récupérer des tubes avec un liquide. Et ce liquide, c'est le ou la biologiste qui va regarder au microscope si oui ou non il y a un ovocyte. Donc c'est une ponction qui dure 10 à 15 minutes, et c'est sous anesthésie générale.
C'est obligé l'anesthésie générale, parce que ça me fait un peu peur.
Alors ça, vous pourrez voir avec l'anesthésiste, hein. Y a un rendez-vous qui sera prévu de toute façon.
D'accord.
Mais donc, ce que je disais, c'est qu'à la fin de la ponction, après examen par la biologie, on saura combien d'ovocytes pourront être conservés. Et on les conservera dans un peu comme des grands frigos, à moins 196 degrés. Et vous pouvez les garder jusqu'à vos 45 ans ensuite.
Ok.
En revanche, ça, il faut payer tous les ans pour les conserver. C'est à votre charge, c'est 45 euros par an.
Ok.
Voilà, tout est clair, hein ?
Oui.
Vous aurez un rendez-vous à prendre avec la biologie. Mais de toute façon, on vous rappelle pour une date de ponction quand votre dossier sera passé en comité.
D'accord.
Ok ?
Ok.
Eh ben, ça donne pas envie.
Ouais, mais c'est quoi la prochaine étape, là, maintenant ?
Sur le chemin du retour, c'était la foire aux doutes. Je déteste me dire que je fais les choses pour ne pas regretter. Mais c'était exactement ce que je faisais là. Je me suis mise à tout remettre en question. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Pourquoi un enfant? J'en revenais à pourquoi on fait des enfants en fait. De retour à Paris, je me suis dit que j'allais poser la question aux gens autour de moi. Pourquoi eux, ils voulaient ou avaient voulu des enfants? J'espérais y voir plus clair comme ça.
Je pense que vous faire dodo, mananou, tout bientôt.
J'ai commencé par mon frère et sa femme Julie. Ils habitent à Londres, mais ils étaient en visite à Paris avec leurs deux enfants, Malo, 2 ans et demi, et Charlie, à peine 1 an.
C'est pour Tatama.
Tatama, c'est comme ça qu'ils m'appellent. C'est pour Tata Marie, pas pour Tarama ou Tatami.
Oui, moi, je pense que je disais depuis un très jeune âge que je ne me sentirais complet qu'une fois père.
Et au bout de quelques semaines de relation, très flippant.
Sans formuler de demande claire pour autant, juste une information.
Je sentais l'appel d'être père et que c'était le sens de ma vie. Enfin, c'est une sorte de foi, c'est presque religieux, tu vois.
Et toi, Julie?
Moi, je crois que je me suis toujours vue avec un enfant, mais qui a eu à un moment une révélation un peu physique où ça a été une évidence. Et à partir de là, je savais que je voulais avoir un enfant, porter. En fait, c'était un truc aussi physique, quoi.
Je voyais ce qu'il voulait dire.
On va mettre le manteau.
Les deux.
Parce que là, on va partir.
Mais il m'en fallait plus.
On y va en scooter.
Alors après eux, j'ai demandé à Madame B, 88 ans, ma voisine du 4e.
Bon, je sais pas trop ce que je vais vous dire, moi.
Je l'ai croisée dans ce qu'on appelle la loge, mais qui maintenant est juste le local poubelle, en fait. Et on est resté là.
Mon mari était fils unique. Et donc, il voulait des enfants. Et pas seulement un.
Oui.
Voilà. Donc, si bien qu'on a eu 3 enfants, on voulait fonder une famille, évidemment. Pour que la famille continue, hein, c'est sûr. Et puis aussi pour les grands-parents, ça leur faisait plaisir aussi d'avoir des petits-enfants aussi bien d'un côté que d'un autre. Donc voilà. D'ailleurs, j'étais sur mon arbre généalogique, là, puisque je suis sur Généanet et je recherche les ancêtres assez éloignés.
Oui, donc c'est pas, il n'y a pas tellement de... Vous n'aviez pas envie de vous reproduire, vous, mais juste... De s'inscrire dans une...
C'est ça plutôt.
Ouais.
Oui, oui. Évidemment, je vais revivre par mes enfants et mes petits-enfants. On vivra encore un moment après mon décès. Voilà, ils parleront encore de moi, comme moi, je parle encore de mes grands-parents, et voilà.
Et puis après Madame B, qui était devenue Jacqueline à la fin de cet échange, j'ai ouvert grand les vannes. J'ai demandé à tout le monde, mes proches, et mais pas du tout proche.
Alors, pourquoi on fait des enfants? Ben, on fait des enfants parce que déjà, d'une, pour la descendance.
J'avais tout le temps mon micro, à toute heure, au café, le matin tôt, la nuit tard.
Pour une satisfaction personnelle pour moi, pas pour mes parents, pas pour leur faire plaisir, vraiment pour moi. J'ai juste donné beaucoup d'amour.
Je me dis que c'est une partie de moi qui va perdurer et que je laisse une trace. Je pense que c'est important.
Parce que les amis, c'est bien, mais un jour, les amis, ils sont pas tout le temps là.
Au supermarché, au travail, chez le coiffeur, dans le bus, à la bibliothèque.
Pourquoi tu penses? Si je vais à une proximité à moi, je vais avoir des enfants qui me ressemblent. Voilà, je vais avoir une mini-moi. C'est ça.
Non, mais de revivre des trucs, genre la magie de quand t'étais gosse.
Ouais.
La revoir dans les yeux
de
ton enfant à toi, genre.
Ouais, c'est
quand
vrai
tu vas
ça.
À Disney pour la première fois.
Donc, oui, ça donne du sens.
Parfois, l'enfant, il sort, il est laid.
Ça veut dire qu'avant, il n'y en avait pas de sens?
Peut-être, ouais.
L'enfant, il est laid, mais faut pas assister la maman, tu vois, il est beau, mais des gens commencent à mentir à l'enfant.
Mmh. Quand tu vas le Père Noël...
Tu montres tel film, tel premier film, tu vois.
Ouais, de ouf. Quand tu vas chercher les œufs de Pâques dans le jardin, quand tu perds une dent, il y a une pièce de 2 euros sur ton oreiller, c'est genre waouh.
Bah, il y aura mon sang quelque part. Voilà, c'est ça. Parce que je vais avoir mon sang quelque part dans... Même un quart, un dixième, tu vois. Mais au moins qu'il est quelque part.
Instabilité, un foyer, si elle manque un peu d'amour avec le partenaire, on va le trouver dans les enfants, c'est un point de retour.
Question d'ennui aussi, je sais pas, je m'ennuierais de ouf, je pense, au bout d'un moment.
sais pas.
Je m'ennuie déjà là.
Les enfants, c'est la vie. Voilà. Point.
La vie qui continue.
Bien sûr. La vie qui continue.
Ok.
Voilà.
Je posais la question partout, à tout le monde, quel que soit mon degré d'alcoolémie.
Non mais franchement, en fait on n'y réfléchit pas, mais c'est compliqué. Parce que moi j'ai ni l'amour ni les enfants là.
Ou le leur.
Donc en fait on t'a donné la vie, on t'a donné beaucoup d'énergie et d'amour. Et cet amour et cette énergie qu'on t'a donné, toi tu dois le redonner. Pour rééquilibrer les énergies dans l'univers en fait. Tu vois, ça c'est un truc énergétique subtil.
C'était trop subtil pour moi, là. Trop compliqué. J'étais toujours aussi paumée franchement, voire pire. Et puis, miracle.
Mathieu ?
Ça va ?
Ça va ?
Ouais, ça va super, et toi ?
Ouais, enfin... pas trop.
J'ai croisé Mathieu. Mathieu, c'est mon ami que je vois le moins au monde. Faut dire aussi pour sa défense qu'il commence sa journée à 4h du mat parce qu'il travaille à la radio, qu'il a toujours un milliard de trucs à faire et deux enfants.
T'as du temps ?
Pas vraiment.
Mais parce qu'en fait, je marche avec toi.
Mais c'est aussi mon ami dont je sais qu'il peut tout comprendre. Et tout commenter avec recul, finesse et humour. Le croiser là, maintenant, dans la rue par hasard, c'était une véritable aubaine.
Et tu penses que je suis l'homme de la situation pour t'expliquer pourquoi faire des enfants, c'est formidable?
Oui,
ben, formidable. Tu mises tout sur moi.
Je mise tout sur toi, là.
Vraiment? Tu veux qu'on prenne un café?
Oui, je veux bien ça.
Je l'avais sous la main, j'en ai profité. Ça a duré plusieurs heures. J'avais besoin de ranger les choses dans ma tête. Alors je me suis dit que j'allais tenter de lui livrer un condensé de toutes les réponses que j'avais pu entendre. Un truc que j'ai beaucoup entendu, c'est le projet à deux. Genre, l'enfant comme l'ultime projet une fois que t'es en couple. Mais moi, je me demande pourquoi c'est ce projet-là et pas un autre projet, comme par exemple cultiver son jardin. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
En fait, il y a un mimétisme social. À un moment dans ta vie, avoir un enfant... C'est un signe extérieur de réussite comme un autre, finalement. Et donc, tout le monde autour de toi ayant des enfants, tu te vivrais comme anormal si tu n'en avais pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'engouffres dans la voie du couple, tu acceptes les normes sociales, tu acceptes ce que la société dit que tu dois être. Donc, une fois que tu as mis le pied dans le couple, le deuxième engrenage, c'est le chat. Et une fois que le chat n'est pas mort, pas décédé rapidement par manque de croquettes, eh ben, une fois que t'es lancé sur ces rails, c'est assez logiquement que tu décides de songer à un enfant.
Ouais.
Voilà.
Bon, on aurait donc une première catégorie, mimétique. Je peux entendre. Mais dans mon panel de raisons, il y en a qui rentrent pas trop là-dedans. Notamment l'idée de laisser une trace. Comme pour continuer à exister. L'enfant qui serait comme une réponse à l'angoisse existentielle, au vertige de « ben un jour, c'est fini ».
Même si, en fait, bon, c'est une autre personne, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous, on sera bien morts, hein. Marie, malheureusement, ça sera vraiment, on atteindra la lumière. Je suis ravi que ça te fasse rire, parce que tu restes optimiste et jovial face à la cruauté de la vie.
Non, mais en fait, moi, comme je ne me projette pas loin, j'y pense pas, ça va être fini. C'est pas,
Tu ne te projettes pas si loin?
Moi, je ne me projette jamais.
C'est vrai, je ne me projette pas. Du coup, laisser une trace, ou même l'idée, assez fréquente pourtant, de faire des enfants pour transmettre des valeurs, ça me parle pas. D'ailleurs, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas les ranger ensemble, ces raisons ?
Ah, moi, je suis pas d'accord.
Non, c'est pas pareil.
J'en sais rien, en fait, moi, j'ai aucune certitude, mais dans ce que tu dis, j'entends pas la même chose. C'est un peu de toi, une fraction de toi, qui va continuer d'exister. C'est plus minimaliste comme projet.
Pour lui, les gens qui veulent transmettre des valeurs, ils appartiennent plutôt à une autre case, la case dynastique.
On ne parle pas que de gens réac qui habitent dans un château. C'est des gens qui ont des convictions, en fait. Et ils se disent qu'en créant un petit être qui leur ressemble, qui vient d'eux, et sur lequel ils vont avoir la main mise pendant 18 ans, enfin, plutôt pendant 14 ans, on va dire, ils vont pouvoir changer le monde, en fait, à travers leur enfant.
Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. En creusant cette idée de la transmission, on a réalisé qu'on pouvait aussi vouloir des enfants pour leur transmettre une culture, une passion, et même des souvenirs. J'ai eu beaucoup de réponses nostalgiques, d'ailleurs. L'envie de revivre son enfance à travers sa progéniture. Ça non plus, je savais pas quoi en faire.
Pas du tout.
Toutes ces magies-là, les revivre avec ton enfant, mais...
Ça te parle pas ?
Non. En revanche, voir un enfant s'émerveiller, l'émerveillement de l'enfant, ça me bouleverse.
Oui, mais ça te renvoie pas à toi.
Non, pas du tout.
à toi, tes petites mains potelées sur la grille d'une cage d'un lion aux eaux. Non, ça.
Aux eaux de Thoiry.
Ça ne te dit... Non, alors, il n'y a pas de cage aux eaux de Thoiry, hein, c'est en plein air. Mais on voit vraiment que tu n'as pas eu d'enfance, Marie. C'est vraiment désespérant. Je commence à comprendre beaucoup de choses.
Donc, oui, il y a ça. Il y a aussi des gens qui sont dans un truc de... c'est de l'amour à donner. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de penser qu'à moi. Ça, c'est vraiment un truc que je ne peux pas l'entendre. Enfin... Mm-hmm. Après, j'imagine que ça me vexe aussi quand on me dit ça. Je me dis que dans ma réaction qui est un peu forte, doit y avoir. Moi, j'ai pas d'enfant, donc ça m'énerve qu'on sous-entende que je suis égoïste. Hein. Mm-hmm.
Mais et surtout, je pense que. Enfin, je juge personne, mais d'après ma modeste expérience de la vie, je pense que c'est faux. Je pense que si on fait des enfants, c'est parce que ça nous fait plaisir et que.
Mais. C'est pas grave. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave d'être égoïste. On l'est tous, en fait, d'une manière ou d'une autre.
Oui, bien
c'est
sûr. Parce que tu disais, non, j'ai deux enfants, on juge pas. Je vais pas m'accabler. Non, mais il faut pas.
On a convenu qu'en fait, il y avait de l'amour à donner et à recevoir. Et que oui, ça devait aussi être un bon moteur.
Ce petit être va t'aimer toute sa vie, d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir un lien entre vous qu'on pourra pas briser, en fait. Donc, et ça, c'est s'offrir une sécurité affective. On peut pas l'écarter comme un des arguments principaux pour lesquels les gens font des enfants. Un amour garanti.
Ouais. On dirait un slogan.
Garanti 5 ans.
Après cette page de pub, on s'est demandé si concevoir l'enfant comme un réservoir d'amour, ça pouvait pas se rapprocher de l'enfant comme le fruit de l'amour. Cette envie de créer un mini-moi, ou un mini-nous, pour les plus romantiques.
C'est présent chez chacun d'entre nous, ne nous voilons pas la face, c'est les gens qui se trouvent tellement... pas forcément beaux, mais ils ont envie, soit ils se trouvent beaux eux-mêmes, soit ils trouvent beau leur couple, en fait, l'union des deux personnes. Ils s'aiment et ils estiment que ça mérite qu'on scelle dans le marbre cet amour. Et le marbre, c'est pas un marbre, c'est un petit être.
Si on voulait créer une catégorie avec tout ça, ça pourrait être narcissique. Ça ferait donc mimétique, dynastique, narcissique. Mais on met où ceux qui veulent pas vieillir seuls alors ? Parce qu'on m'a dit ça aussi.
On pourrait créer une autre catégorie, Marie, parce qu'on est fou, on est dingue, on se permet tout, on bouleverse la sociologie. Ça pourrait être les parents pragmatiques. Ils pensent pas au petit bébé mignon. Évidemment qu'ils y pensent, on l'a dit tout à l'heure, toutes les catégories se mélangent, mais ils pensent à ça. Mais ils disent aussi, ce petit bébé mignon, un jour, ça sera un grand monsieur costaud qui pourra m'aider à me déplacer quand je serai sur la faim.
Après tout, c'est vrai qu'avant, les gens faisaient des enfants pour ça. Pour la force vive que ça représentait. Enfin, je dis avant, mais... Enfin, ce qui justifiait le fait d'avoir des enfants, c'était qu'ils allaient aider à la ferme. Meuf qui a une image trop bizarre des temps anciens.
Tout le monde était fermier à l'époque. À l'époque, c'était... Hein, c'est vrai. Hein. Ils étaient tous fermiers. Oui, ça doit rester quelque part en nous.
Au bout d'un moment, on a commencé à s'y perdre.
Le vertige existentiel, dans quoi on l'a mis ? Putain, je me souviens plus.
En tout cas, c'est pas narcissique. Et c'est pas dynastique du tout.
Non, pas du tout. Et c'est pas mimétique non plus.
Non, on touchait aux limites de l'exercice.
Voilà, ouais.
Enfin, on s'est arrêté là. Et sur l'idée qu'on avait tous un paquet de motivations différentes et tout un peu intriquées.
Mais moi, j'espère bien qu'on va obtenir notre agrég à la fin de cet entretien, parce que vraiment, j'ai rarement autant réfléchi qu'avec toi, Marie.
Et puis, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander à lui, Mathieu, pourquoi il avait eu des enfants. Enfin, en l'occurrence, le premier, l'acte décisif. Il a toujours aimé les enfants... Et toujours su qu'il serait père un jour.
En revanche, bon, l'engagement, et ça, je me disais, bon, c'est pas tout de suite. J'avais 29 ans, enfin, j'avais 28 ans quand mon père est tombé malade. Et là, ça a été un déclic. C'est vraiment un facteur exogène. J'ai vu mon père qui a eu un cancer fulgurant. Il est mort en 6 mois à peu près. Et quand je l'ai appris, en fait, ça a tout chamboulé en moi. C'est-à-dire que cette envie diffuse d'avoir un enfant, mais un jour, peut-être, tout ça s'est accéléré. Je me suis dit, il faut que je fasse un enfant parce que ça va sauver mon père, en fait. Il va vouloir vivre pour voir cet enfant. Tout s'est effacé d'un coup. J'avais plus aucun doute, il n'y avait plus d'obstacles. Et toutes ces questions, ça s'est imposé à moi. Ouais. Et j'étais sûr que c'était ça qu'il fallait faire.
Et alors, c'est drôle. Enfin, c'est pas drôle, non, mais ça m'a fait penser à ce truc que j'ai ressenti une fois. Une seule. Quand ma grand-mère est morte. J'étais à la mer. J'étais allée me baigner dans un délire un peu New Age de communion avec les éléments. Parce que je savais pas quoi faire de ce chagrin. Et je m'étais dit... Il faut faire continuer la vie. Il faut faire des enfants. Elle a vécu. Nous, on est là. Et voilà.
Mais il y a peut-être aussi un peu de ça chez moi, t'as raison. C'est vrai, il y a un peu le côté, au-delà du fait que c'est mon père qui meurt, c'est des déclics purs de vie, en fait.
Oui, c'est ça. Mmh. Ok, on n'aura peut-être pas obtenu d'agrègue, mais une idée à creuser. Ce déclic de vie. Est-ce qu'il ne se cacherait pas, derrière toutes ces petites et grandes raisons d'avoir des enfants, un élan plus instinctif, un truc biologique, qu'on fleurirait de nos petites histoires à nous? Ça m'a fait penser à mes cours de Evolutionary Psychology, à la fac à Londres. C'était la première année, mon anglais n'était pas parfait, le prof avait un gros accent et je sortais tous les soirs. Autant dire que je pense pas avoir parfaitement optimisé l'intégration du cours. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est que tous nos comportements pouvaient s'expliquer par l'évolution. Par le fait que notre cerveau n'a pas beaucoup évolué biologiquement depuis l'invention de la roue.
Il y a forcément une sorte de nécessité biologique d'avoir des enfants. Sinon, on ne serait pas là. On est programmé pour se reproduire et pour essayer de maximiser notre capacité à le faire, comme toutes les autres espèces.
Vous entendez Louise Barrett, professeure de psychologie, sciences cognitives et biologie évolutionnaire au Canada. On s'est parlé en visio. C'était un jeudi matin pour elle, un jeudi soir pour moi, et on est reparti de la base. Parce que oui, effectivement, j'avais pas tout bien compris. Là, Louise m'explique que pour les puristes de la théorie de l'évolution,
on aurait besoin de rien d'autre que d'avoir envie d'avoir des relations sexuelles et d'y prendre du plaisir et que ça nous amène à avoir plus de relations sexuelles. C'est tout ce dont on aurait besoin pour tomber enceinte et se reproduire, a priori. Et une fois que les enfants arrivent, il faut avoir l'élan et l'envie de prendre soin d'eux. Ils doivent toucher quelque chose en vous qui vous amène à vous en occuper. Les bébés doivent faire naître en vous un sentiment nourricier.
En gros, il suffit d'avoir envie de baiser et de prendre soin de l'enfant quand il est là pour que le système marche. Moi, je veux bien, mais il y a pas mal de gens qui veulent des enfants sans avoir trop envie de baiser. Et oui, Louise convient que pour nous, les êtres humains, c'est différent, parce qu'on sait comment ça marche, a priori.
C'est pour ça que les humains sont très intéressants, parce qu'à ma connaissance, c'est la seule espèce qui sait d'où viennent les bébés.
Nous, on peut décorréler envie de sexe et envie d'enfant, et décider d'avoir des enfants. En fait, d'après Louise, je suis pas sur la bonne piste en tentant de chercher une cause purement biologique.
Tout le monde veut toujours savoir si ça vient de la nature ou de la culture, comme si on pouvait séparer les deux. Et je ne pense pas qu'on puisse le faire, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a un désir purement biologique, parce qu'il y a des variations dans le niveau de ce désir d'enfant, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Et ce qu'on en fait dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Le contexte dans lequel on est, dans lequel on a grandi et dans lequel on vit fait partie des éléments qui vont déterminer nos résultats en termes de reproduction. On ne peut pas exclure le contexte de l'équation.
Louise va plus loin. Pour elle, la question même du pourquoi on veut un enfant, elle n'est peut-être pas pertinente.
Ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait sans vraiment savoir pourquoi on les fait. Le comportement humain marche beaucoup comme ça, non? Je veux dire, souvent les gens ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Il y a juste un truc qui fait qu'on a l'impression de devoir s'expliquer et se justifier. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses que l'on fait où on ne se justifie pas. Vous voyez, je ne peux pas expliquer pourquoi, parfois, je traverse le parc et parfois, je contourne le parc quand je vais au travail. Je le fais, c'est tout. J'en ai juste envie. Je pourrais trouver une raison, mais cette raison n'est pas la raison sur le moment, c'est la raison qui m'est venue après.
Ça a même un nom, ce phénomène.
Inventer une histoire pour expliquer son comportement, on appelle ça la confabulation. Il y a plein d'expériences intéressantes sur le sujet, dont une par exemple, où on a 6 pots de confiture identiques et où on dit aux gens « goûtez-les et choisissez celle que vous préférez ». Et ils en choisissent une, parce qu'ils sont obligés. Puis on leur demande « pourquoi vous avez préféré celle-là » et ils disent « oh, c'était plus fruité, c'était beaucoup plus facile à étaler, vous voyez ? C'était plus acidulé ». Alors qu'il n'y a aucune différence avec les autres confitures. Parce que quelqu'un vous l'a demandé, vous fabriquez une histoire. Donc voilà, je pense que nous avons cette tendance massive à donner des raisons à nos actions.
D'après Louise, c'est pareil pour les enfants et toutes ces raisons qu'on entend et qu'on a bien du mal à ranger dans des cases.
Je pense que c'est la raison pour laquelle on entend ce qu'on entend. Les gens ne savent pas vraiment pourquoi ils ont eu des enfants. Ils les ont simplement voulu et ils les ont eus. Et quand on leur pose la question, ils disent « Oh, pour s'occuper de moi dans mes vieux jours » ou « Pour laisser quelque chose de moi dans l'avenir » ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est inventé après coup. C'est sûr, étant donné que tant d'autres choses le sont.
C'était pas la réponse que j'attendais, mais c'en était une. Souvent, on fait les choses sans qu'il y ait de pourquoi. En revanche, si je suis en train de marcher là, avec un jean mouillé, il y a un pourquoi. Il y en a même plusieurs. C'est parce que c'est celui qui me va le mieux, que j'ai pas de sèche-linge, et que j'ai rendez-vous avec Marcel Samba, là, dans quelques minutes. J'ai les genoux en coton. Mais bon, pour ma défense, j'ai aussi l'émotion du message que je viens d'avoir sur mon répondeur et qui date d'il y a 3 jours. Parce que oui, je consulte que très rarement ma messagerie vocale, je sais pas pourquoi. Un blocage. Sûrement parce que 90% du temps, les messages sur répondeur, c'est des butt calls, donc bon, 2 minutes de bruit de pas, merci. Mais là...
Bonjour, ici le secrétariat du Sécos d'Angers. C'était pour vous dire qu'a priori, votre date de ponction serait en octobre. Vous avez dû recevoir par ailleurs une invitation pour un appel en visio avec la biologie ce vendredi. N'hésitez pas à nous rappeler si cela ne convenait pas.
Voilà. Ok, j'approche de l'adresse. J'ai soif. Je sens plus mes jambes. En fait, c'est simple, je ne sais plus comment on marche. Surtout, je sais plus sa tête, je crois. Enfin, ça se trouve, je viens de lui passer devant, là. Ah si, je crois que c'est là. Oh putain, c'est un bar à chat. Non mais c'est quoi ce truc? En vrai, je le connais pas, ce mec, ça se trouve, c'est un fou. Non mais c'est sûr, c'est un fou. J'ai vu. Sa ponctuation dans ses messages, déjà, trop chelou. Et puis filer son livre à une inconnue qui fait ça, en fait.
Marie?
Ah, coucou.
Ça va?
Ça va et toi? C'était le 3e épisode de Marie et les œufs en neige, une série Paradiso Média. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des étoiles, et en ski, la 3e étoile c'est le max, mais là vous pouvez mettre 5. Hein. Et écrivez-nous aussi, on sera contents. Cette série a été écrite par Marie Cahu, co-réalisée avec Théo Albaric et produite par Suzanne Collin.